Vous écoutez, on lit pour vous.
Congélateur communautaire, un supermarché pas comme les autres, un texte de François Bellemare, paru le 6 novembre 2024 dans le Nunavoie. À Aupaluk, plus petite localité du Nunavik et située sur la côte ouest de la baie d'Ongava, se trouve un petit bâtiment appelé ainsi, comme dans chacun des 13 autres villages de cette région du Québec arctique. En théorie, il faut avoir copie de la clé pour y accéder, mais souvent la porte n'est même pas verrouillée. Comment fonctionne donc ce supermarché un peu spécial, sans jamais de personnel sur place, et surtout, sans passage à la caisse? Poussé par la curiosité, c'est ainsi à l'improviste que nous y rencontrons Valley Charlie Gordon, père de famille d'Aupaluk, en train de trancher un morceau de caribou gelé. Sur l'étagère voisine sont offerts plusieurs ongles de l'Arctique, ce poisson emblématique du Nord. Charlie accepte volontiers d'expliquer comment fonctionne ce système traditionnel moderne. L'héritage d'un ancien mode de distribution. Les Inuits inscrits au registre des bénéficiaires peuvent y aller à toute heure et prendre gratuitement viande ou poisson pour leur propre consommation. Établi par la Convention de la baie James et du Nord québécois, CBJNQ, ce registre liste depuis 1975 tous les Inuits du Nunavik, leurs conjoints et descendants. Souvent appelés les bénéficiaires de cette convention, ils ont ainsi droit à d'autres avantages, droit de vote aux instances dites ethniques, comme la société Makivik ou au conseil de la jeunesse Karjwit, accès aux logements municipaux, prix réduit sur l'essence. Mais sans les exemptions fiscales toujours à ce jour accordées aux Indiens vivant sur les réserves sous tutelle fédérale. Ce système de congélateur communautaire permet à toutes les familles, même celles à revenus très modestes, de s'alimenter à base de nourriture traditionnelle, saumon, omble, caribou, phoque, beluga, fournie par les chasseurs du village, qui y déposent la portion qu'ils ne consommeront pas eux-mêmes. Ils sont rémunérés par le programme d'appui aux chasseurs, géré par chaque municipalité et financé par des accords régionaux impliquant le gouvernement du Québec. Des produits achetés sans être vendus. Via ce système propre aux Autochtones du Nord, le Nunavut a ainsi son propre système. Ces produits de chasse et de pêche sont donc achetés sans être vendus. Il y intègre un calcul de quotas pour certaines espèces animales afin de préserver les ressources. Le beluga est un bon exemple. Espèce protégée, seules les populations inuites ont droit de le chasser, suivant des quotas souvent âprement négociés chaque année entre les associations de chasseurs de chaque zone. Ce programme est en fait la version moderne d'un très ancien mode de distribution, comme l'évoque notre interlocuteur, Charlie Gordon. Jadis, un même groupe d'Inuits semi-nomades alternait continuellement entre différents campements selon la saison. Les chasseurs, d'habitude seuls les hommes et les garçons assez grands, partaient souvent pour plusieurs jours. Pendant ce temps, les autres membres, femmes, jeunes enfants, aînés, s'occupaient aux mille et une tâches ayant lieu à proximité du campement. Cueillette de fruits ou de crustacés, tannage des peaux et confection de vêtements, et bien sûr, soins aux enfants ou personnes invalides. Bref, une répartition toute traditionnelle des tâches. Au retour de chasse, le gibier était réparti entre les familles du groupe, dans une économie en circuit presque fermé et largement non monétaire. Ce n'est qu'au cours du 19e siècle que les Inuits ont commencé à vendre des peaux d'ours ou de renard au comptoir tenue par des agents de la Compagnie de la baie d'Hudson, fondée à Londres, ou de son concurrent, Réveillon Frères, basé à Paris, et a acheté quelques produits, farine, sel, armes à feu, munitions, pièges de fabrication industrielle, qui leur étaient vendus par les agents de ces mêmes compagnies. C'est ainsi qu'ils se sont lentement sédentarisés. Ce n'est en fait qu'au tournant des années 1970 que la vie pleinement semi-nomade a pris fin. D'après la majorité des commentaires recueillis sur place, la version actuelle du système est plutôt équitable. Il assure d'une part un revenu aux chasseurs, en prise à des hausses substantielles de leurs dépenses comme l'entretien de l'équipement et des véhicules, bateaux hors-bord ou motoneige, ou de plus en plus souvent l'hydravion, le prix des armes, des munitions ou de l'essence. D'autre part, et c'est peut-être là le plus important, il préserve surtout l'accès à la nourriture traditionnelle pour toute la communauté locale. C'était Congélateur communautaire, un supermarché pas comme les autres, un texte de François Bellemare, paru le 6 novembre 2024 dans Le Nunavois.
Que savez-vous sur le sommeil? Un texte commandité, paru le 11 novembre 2024 dans La Presse. Ce n'est plus un secret pour personne, le sommeil joue un rôle primordial dans le maintien d'une bonne santé globale, tant physique que mentale. Les recherches scientifiques permettent aujourd'hui de mieux comprendre ce processus complexe et fascinant. Apprenez-en plus en testant vos connaissances sur le sujet. Vrai ou faux? Le sommeil comprend différents stades. Vrai. Les données scientifiques, obtenues grâce à l'analyse des ondes cérébrales par électroencéphalogramme, ont permis de découvrir que le sommeil comporte divers stades, dont l'endormissement, stade 1, le sommeil léger, stade 2, le sommeil profond, stade 3, et le sommeil paradoxal, stade 4. Chacune de ces phases présente des caractéristiques physiologiques spécifiques. Des variations sont observées notamment sur le plan des signes vitaux, du tonus musculaire et des activités hormonales. Vrai ou faux? Les rêves surviennent principalement pendant le sommeil profond. Faux. C'est pendant le sommeil paradoxal, stade 4, que les rêves sont les plus fréquents, les plus intenses et les plus élaborés. Cette phase, aussi appelée REM, de l'anglais Rapid Eye Movement, se caractérise entre autres par une activité cérébrale très vive, des mouvements oculaires rapides et une paralysie des muscles. Les trois premiers stades font quant à eux partie du sommeil lent, appelé sommeil non-REM dans le jargon scientifique. Ils se distinguent notamment par des ondes cérébrales lentes et amples, observables à l'électroencéphalogramme. Vrai ou faux? Le sommeil est un phénomène cyclique. Vrai. Le sommeil se décompose en plusieurs cycles. Un cycle comprend tous les stades, soit l'endormissement, le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Il dure en moyenne 90 minutes et est entrecoupé d'une phase de semi-réveil très courte dont le dormeur ou la dormeuse ne garde habituellement aucun souvenir. De façon générale, une personne accomplit de 4 à 6 cycles par nuit selon la durée du repos. Cela dit, ces cycles ne se reproduisent pas de manière identique tout au long de la nuit. Les premiers comprennent davantage de périodes de sommeil lent profond, tandis que les derniers se révèlent particulièrement riches en sommeil léger et paradoxal. Vrai ou faux? Le sommeil paradoxal est le plus réparateur d'entre tous. Faux. D'après de nombreuses études, c'est le sommeil lent profond qui serait le plus réparateur. Il jouerait notamment un rôle crucial dans le processus de récupération de l'organisme, la réparation des tissus et la sécrétion d'hormones indispensables à son bon fonctionnement. De plus en plus de spécialistes sont toutefois d'avis que chaque stade de sommeil est important pour la santé et que ce serait leur succession qui importerait. Le sommeil paradoxal serait notamment essentiel pour les fonctions cognitives, l'apprentissage et la consolidation de la mémoire. Vrai ou faux, le sommeil change au cours de la vie. Vrai. La structure du sommeil se modifie au fil du temps. Chez l'enfant, le sommeil lent profond est abondant et les éveils se font rares. En vieillissant, les périodes de sommeil lent profond diminuent. Ainsi, le sommeil devient plus léger et plus fragmenté. Le temps d'endormissement augmente également et les éveils au cours de la nuit s'avèrent plus fréquents et plus longs. Cela explique en partie pourquoi les personnes âgées se plaignent souvent d'insomnie. Vrai ou faux? De nombreuses substances sont impliquées dans le sommeil. Vrai. Plusieurs composés organiques jouent un rôle fondamental dans le sommeil. La mélatonine, dont la sécrétion est favorisée par l'obscurité, s'avère l'une des hormones les plus importantes car elle sert à réguler le cycle veille-sommeil. L'adénosine est une autre molécule essentielle dans la régulation du sommeil. Elle s'accumule en effet progressivement dans le cerveau pendant la période d'éveil, ce qui entraîne une diminution de l'activité cérébrale et une augmentation de la perception de la fatigue, facilitant ainsi le sommeil. C'était « Que savez-vous sur le sommeil ?» un texte commandité paru le 11 novembre 2024 dans La Presse.
Comment faire atterrir un avion? Un texte de Stéphane Dompierre, paru le 10 novembre 2024 dans La Presse. Il y a plusieurs choses auxquelles il me suffit de penser pour sourire spontanément. Mon chien, quand il pète, et qu'il se retourne surpris, se demandant d'où viennent ce bruit et cette odeur. Cette mascotte timide en forme de gobelet de café, que je croisais parfois en sortant de chez moi, je l'imaginais trébucher et rouler pour aller rejoindre les milliers de gobelets Tim Hortons qui se décomposaient sur les terrains du quartier. Et puis, cette statistique. Selon un sondage de YouGov, 46% des hommes interrogés se sentaient confiants, dans une situation d'urgence, de réussir à faire atterrir un avion rempli de passagers en toute sécurité. J'ai fini par associer ce chiffre étonnant à un événement plutôt banal, mais qui prend tout son sens quand on le regarde sous un angle nouveau. J'étais en vacances dans le sud de la France et, après quelques jours, canicule oblige, je suis allé dans une buanderie pour faire une brassée de lavage. Ce matin-là, il n'y avait que deux autres clients. Des gars debout devant la bouche béante de la laveuse frontale, l'un se grattant la tête, l'autre faisant de grands signes de bras pour signifier son impuissance. Les deux étaient complètement mystifiés par cette étrange machine. Faut-il mettre nos vêtements dedans? Le savon apparaîtra-t-il par magie? À quoi servent tous ces boutons? Je leur ai fait un petit cours rapide, le savon ici, les pièces de monnaie là, le gros bouton blanc pour que ça démarre. Si je n'étais pas intervenu, ils seraient repartis penauds avec leurs poches de vêtements sales. Deux grands gaillards qui doivent bencher 200 livres, mais dépassés par l'ampleur d'une tâche toute simple. Quand je repense à eux, je me dis que, si je leur avais posé la question, ils auraient fort probablement été dans les 46% des gars confiants d'être capables de faire atterrir un avion, et ils ne sont pas les seuls. C'est bien beau la confiance, mais ça ne remplace pas la compétence. J'essaie de me mettre dans la situation. Je suis dans cet avion. Le pilote et le copilote ont disparu. Ils ont sauté en parachute ou ils sont morts en mangeant le repas servi à bord, ce qui me semble assez probable, mais peu importe. À la limite, je peux comprendre l'envie de tenter de faire atterrir cet avion sans pilote, question de s'occuper, plutôt que de rester assis devant un film plate, à grignoter les 6 mini-bretzels généreusement inclus dans notre billet à 2 500 $ en attendant le crash. Mais de là à penser qu'on va réussir. Si tu me vois entrer dans le cockpit pour tenter ma chance, tu aurais beau te mettre à genoux et prier tous les dieux que tu connais, ça ne changera rien. on va tous mourir. Je dois changer une rondelle d'étanchéité usée, un washer, oui, sur le robinet de la salle de bain, et ça me semble une tâche insurmontable. Ça fait un mois que je remets ça plus tard. J'imagine déjà les dégâts, les 3 pieds d'eau dans le sous-sol. Je vais fort probablement regarder 5 tutoriels avant de m'y risquer. Quand je change avec succès le filtreur de l'échangeur d'air, je prends congé le reste de la journée pour me récompenser. Je mets de l'eau partout quand je lave la vaisselle. Je me sers de Google Maps pour aller au centre d'achat. Je ne vais pas réussir à poser cet avion, mais je doute tout autant que Monsieur 46% y parvienne. Cette statistique étonnante occultait tout le reste, au point qu'un élément important n'avait pas retenu mon attention. Qu'en est-il des femmes? Je suis retourné voir. En ce qui a trait à leur confiance à l'idée de poser cet avion, ça baissait à 20%. Ça me semble encore élevé, mais tout de même, on est loin du 46% masculin. Si ce 46% me fait sourire, il ne m'étonne pas tellement. Mais c'est ce 20% qui m'a fait réaliser pourquoi, instinctivement, je fais toujours plus confiance aux femmes qu'aux hommes. Si je demande à un homme s'il est capable de faire quelque chose, il va fort probablement répondre oui, qu'il en soit capable ou non. Il va peut-être même réussir à se convaincre qu'il en est capable. Si je demande la même chose à une femme, statistiquement, j'ai plus de chances d'avoir soit un non honnête, soit un oui convaincant. Les femmes ne sont pas moins compétentes, elles font seulement moins semblant de l'être. Si je suis dans ce foutu avion sans pilote et qu'une femme se lève pour aller dans le cockpit, je me rangerai d'emblée dans son équipe et je veillerai à ce que les gars qui ne savent même pas faire fonctionner une laveuse ou changer un washer retournent s'asseoir. Et on priera en mangeant des bretzels. C'était « Comment faire atterrir un avion », un texte de Stéphane Dompierre paru le 10 novembre 2024 dans la presse.
Faut-il prendre des suppléments de vitamine D? Et pourquoi? Un texte de Catherine Hanfield, paru le 17 novembre 2024 dans La Presse. Les jours rétrécissent comme peau de chagrin. L'hiver arrive bel et bien. Faut-il courir à la pharmacie pour acheter de la vitamine D? À quoi ça sert? État des connaissances avec 2 chercheuses en nutrition. Début novembre 2024, La Presse a publié un article sur les façons de renforcer son système immunitaire et les conseils se résumaient ainsi. Bien manger, traiter ses maladies, bouger, bien dormir, éviter de fumer, boire peu d'alcool, se faire vacciner. Vous omettez de parler des bienfaits majeurs de la vitamine D pour le système immunitaire? Nous écrit notre lectrice Julie Tessier. Les gens auraient avantage à en prendre de novembre à mai pour plusieurs raisons. La vitamine D est un nutriment essentiel. Elle est même au centre de la théorie qui explique pourquoi les populations qui ont évolué loin de l'équateur, en Europe par exemple, ont la peau pâle. La peau pâle a besoin de moins de lumière pour produire de la vitamine D. Selon cette hypothèse, cette capacité de produire de la vitamine D était donc un avantage suffisant en matière de survie dans ces régions moins ensoleillées. Rien de moins. La vitamine D a ceci de particulier. Le corps en produit lui-même lorsqu'il est exposé aux rayons ultraviolets B. Pendant la saison froide, il faut donc se rabattre sur les autres sources de vitamine D. Et encore plus lorsqu'on a la peau foncée, les aliments et les suppléments. Au Canada et aux États-Unis, c'est l'Institute of Medicine qui formule les recommandations en matière d'apports alimentaires. Pour la vitamine D, le marqueur ultime, c'est la santé osseuse. Elle contribue à l'absorption du calcium et du phosphore dans le sang. La vitamine D peut avoir d'autres effets que celui sur la santé osseuse. Mais pour l'instant, la recherche est contradictoire, précise-t-on, sur le site de Santé Canada. C'est la raison pour laquelle la presse n'en a pas parlé dans l'article sur l'immunité. Selon Geneviève Maillot, professeure au département de nutrition de l'Université de Montréal, on n'a pas assez de données scientifiques probantes pour dire que ça vous prend tant de vitamine D pour augmenter votre santé immunitaire. Mais ça n'empêche pas que plusieurs études se font. Notre lectrice Julie Tessier a raison. Le rôle de la vitamine D est vraisemblablement multiple. La vitamine D peut affecter l'expression de plus de 1000 gènes, souligne la chercheuse May Farage, professeure à l'Université de Montréal. Ce n'est pas juste lié au calcium, c'est beaucoup lié au système inflammatoire et au système immunitaire. Les fonctions de la vitamine D. L'effet de la vitamine D sur le squelette est étudié depuis longtemps. Une carence en vitamine D peut entraîner un trouble osseux nommé rachitisme chez l'enfant et ostéomalacie chez l'adulte. Elle peut aussi aggraver l'ostéoporose. La vitamine D a cette capacité-là de rentrer dans le noyau des cellules et de moduler l'expression de gènes qui vont permettre l'entrée de calcium et de phosphore dans la cellule intestinale, explique la professeure Geneviève Maillot, qui a fait son doctorat sur la vitamine D au début des années 2000. À cette époque, les chercheurs découvraient, dans des études en laboratoire, que la vitamine D pouvait avoir des fonctions similaires dans d'autres tissus, notamment les cellules immunitaires. C'est anti-inflammatoire, la vitamine D, et ça module un peu la fonction des cellules immunitaires, nous dit Geneviève Maillot. Quand les cellules voient les virus ou les bactéries, elles vont augmenter les réactions inflammatoires pour les tuer. La vitamine D est nécessaire pour avoir cette réaction-là, explique May Farage. Les scientifiques ont donc vérifié si, dans la population, les gens qui avaient de faibles taux de vitamine D dans le sang étaient plus à risque d'avoir des problèmes de santé. C'était effectivement le cas. Ils étaient plus sujets à certaines maladies, comme les maladies auto-immunes, les allergies et l'asthme, entre autres, mais aussi aux infections respiratoires et à leurs complications. Des études plus récentes suggèrent qu'un déficit en vitamine D semble aussi associé à des cas de COVID-19 plus graves. Est-ce à dire qu'en prenant des suppléments de vitamine D, on diminue son risque de développer ces maladies? C'est là que la recherche est encore contradictoire. Des études ont montré un effet de protection. D'autres n'ont noté aucune différence entre la vitamine D et le placebo. Selon une méta-analyse de 2021, la vitamine D a un effet de protection modeste contre les infections, mais les études sont très hétérogènes, dose, durée, population, etc. Geneviève Maillot rappelle que si les gens qui ont des niveaux abaissés de vitamine D ont plus de maladies, est-ce vraiment à cause de leur statut en vitamine D? Ou est-ce indicateur d'autres choses, comme le fait qu'ils vont moins dehors ou que leur alimentation est plus monotone? La relation semble aussi aller dans les deux sens. L'inflammation chronique semble diminuer l'absorption de vitamine D. Des chercheurs ont aussi testé l'impact d'un supplément de vitamine D chez les gens qui contractent la COVID-19. Des résultats sont prometteurs, mais encore une fois, les études sont trop hétérogènes pour établir une recommandation. Les dernières recommandations de l'Institute of Medicine datent de 2011 et, éventuellement, elles seront mises à jour. Ils vont peut-être éventuellement intégrer d'autres paramètres de santé, mais pour l'instant, ce n'est pas clair, explique Geneviève Maillot. La science évolue. Entre-temps, une chose est claire, on ne peut pas se tromper en veillant à consommer suffisamment de vitamine D pour la santé de ses os et pour tout le reste. Et quand il y a une possibilité d'améliorer avec quelque chose, pourquoi pas? Conclut May Farage. Quelles sont les recommandations de Santé Canada? De 2 à 50 ans, vous pouvez soit consommer des aliments contenant de la vitamine D tous les jours, soit prendre un supplément chaque jour contenant 10 microgrammes 400 UI de vitamine D. 51 ans et plus, prenez un supplément chaque jour contenant 10 UG, 400 UI, de vitamine D, tout en continuant à consommer des aliments contenant de la vitamine D dans le cadre d'une alimentation saine. L'apport quotidien total recommandé est de 15 UG, 600 UI, de vitamine D par jour, de 1 an à 70 ans, et de 20 UG, 800 UI, après 70 ans. En savoir plus, source Santé Canada 2016-2019. 32%. Un Canadien sur trois n'a pas suffisamment de vitamine D dans le sang, et 8,2% des gens sont considérés comme en carence. Les adolescents et les jeunes adultes sont les plus sujets à souffrir d'une carence. C'était « Faut-il prendre des suppléments de vitamine D? Et pourquoi? » Un texte de Catherine Handfield paru le 17 novembre 2024 dans La Presse.